Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 24e de la 5e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Notre invité aujourd'hui, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour une troisième partie, est Sébastien Plat, qui est le maire de la commune de Duyac sous Peyre-Pertuis, pour être précis. Et puis il est également chargé à la région Occitanie du tourisme, dont on verra à quel point c'est un secteur très très important, ne serait-ce qu'en chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais notre sommaire prévoit, Michel, que tu nous entretiennes d'abord d'un billet que tu as intitulé « Haine sans retenue, pas seulement dans la rue ». Après quoi, Cesare Battisti, ou César Battisti en français, ou l'honneur perdu de Frontignan, la ville, alors un Italien, enfin tu nous réexpliqueras tout ça parce que c'est une très vieille affaire.
Exactement.
Deuxième partie, jeunes et entreprenants, ils veulent être entendus dans le jeu politique narbonnais.
Oui.
Et nous terminerons par un billet récent que tu intitules « Narbovia inachevée, point d'interrogation ». Voilà, comme les symphonies inachevées sont-elles les plus belles, je ne sais pas. En tout cas, nous commençons par ce billet « Haine sans retenue, pas seulement dans la rue ». Alors, explicite.
Oui, comme tous les Narbonnais le savent, mais pas que. En fait, l'hiver est fini, mais l'atmosphère politique et sociale, elle, est toujours aussi lourde. Hein. Il suffit de lire la presse, de regarder les journaux télévisés. Et cette haine, cette violence n'est pas que dans la rue, quoi, hein, dans les médias, les journaux, les tribunes, les mots, les postures en fait, des hommes politiques, hein, ce mince vernis là, hein, qui fait le vivre ensemble.
Qui fait, doit qui, être qui, la civilisation.
La civilisation, quoi, hein, craque de toutes parts. Et sous la pression de ces passions en fait politiques délirantes, je dis bien délirantes, hein, Jean-Claude.
Oui, souvent c'est vraiment du délire, on peut dire.
Et les intellectuels qui pourtant devraient avoir quand même un peu de retenue dans ce genre ne sont pas en reste et figurent même parmi les plus violents de ces commentateurs de la vie politique locale.
Oui, ils mettent de l'huile sur le feu.
Exactement. Alors à croire qu'effectivement, voilà, les élections présidentielles ne sont pas terminées, quoi, que l'actuel président de la République est illégitime et qu'à la limite, voilà, bon, l'élection présidentielle, comme le disait en fait, Trotsky dans son temps, c'est une révolution permanente, c'est-à-dire qu'on la refait
tous les quatre matins,
et voilà. Et alors, un petit point quand même, hein, est-ce que cette image de cette notre société là, hein, c'est à travers ces mots, ces postures, en fait, cette violence dont je viens très rapidement de cerner les contours, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Quel est le véritable rapport de force politique tel qu'on peut l'analyser aujourd'hui, notamment à travers les sondages qui commencent à tomber, les sondages, je veux dire, des prochaines européennes? Qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que, le Rassemblement national, lui, est stabilisé à un niveau élevé, ce qui n'est pas étonnant. Aux dernières présidentielles, il était arrivé devant, aux dernières européennes, était arrivé en tête.
Oui, mais c'est souvent le cas quelques lustres.
C'est une élection qui lui va très bien, si je puis dire. Et les sondages d'aujourd'hui ont tendance à montrer que sa stratégie qui consiste à soutenir les gilets jaunes, tout en dénonçant la faiblesse du pouvoir et en condamnant l'ultra-gauche, elle s'avère très payante, quoi. Hein.
Mmh. Et mais c'est pas nouveau, si tu permets. Ça doit prouver, me semble-t-il, que pour beaucoup de gens, cette européenne, c'est pas une vraie élection nationale, c'est un défouloir, et on s'exprime de cette façon-là, en soutenant des gens que peut-être on voudrait pas forcément voir au pouvoir à Paris.
Oui, mais en même temps, quand même, hein, la thématique d'une Marine Le Pen aujourd'hui, comme par hasard, et c'est pas un hasard, parce que le phénomène est européen, rejoint des thématiques que l'on constate dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment les pays de l'Est, et qui sont une thématique disons, de gens qui promeuvent en fait, une démocratie, comme l'on dit aujourd'hui, illibérale, c'est-à-dire en fait, des projets où les identités nationales sont mises effectivement sur le banc de la scène, où le problème de l'immigration massive en fait, est considéré comme une menace en fait, pour l'Europe en fait, et pour ces pays, etc. etc.
Donc, c'est-à-dire le contraire des principales valeurs européennes.
C'est le contraire des principales valeurs européennes telles qu'elles sont telles qu'elles ont été posées en fait, quand les pays membres, quand les pays fondateurs de l'Union européenne les ont inscrites effectivement dans le marbre, et qui étaient effectivement des valeurs fondées sur plus jamais en fait une guerre des nations, quoi, hein, plus jamais en fait l'exacerbation des passions nationales qui sont à l'origine en fait de guerres. On n'en est pas là évidemment aujourd'hui, mais quand même cette thématique revient et elle est source effectivement de conflits, non pas armés bien entendu, bien heureusement pour
mais en
nous.
En tout cas, l'hostilité est sous-jacente.
Mais l'hostilité, en fait, la violence, en fait, elle est sous-jacente et elle est bien là. Donc je disais pour en revenir en fait à l'analyse des rapports de force tels qu'ils sont aujourd'hui. Analysé, en tout cas présenté par les derniers sondages, le Rassemblement national sur cette thématique-là fait un très bon score dans les sondages, en tout cas chez les sondeurs. Je constate aussi que Wauquiez et son parti, avec François Bellamy, qui reprend les thématiques de l'ancien président, du candidat des Républicains à la présidence de la République, François Fillon, se stabilise, même si c'est un niveau très relativement bas, entre 18 et 19% des voix, et a une tendance effectivement sur la montée. Que par contre, le Parti socialiste et toute la gauche de manière générale est totalement inaudible sur ces questions, archidivisé entre les Européens affirmés comme les Verts, le PS, et puis d'autres qui le sont moins, comme le parti de Mélenchon, et puis l'ultra-gauche des trotskistes qui seront habitués, comme toujours, présents dans ce combat, et que le parti du président de la République, lui, est entre au même niveau à peu près que le Rassemblement national. Oui. Ce qui veut dire une image quand même que nous donne le sondage et qui est assez contradictoire avec celle que nous présentent les médias aujourd'hui, un contexte difficile socialement et politiquement, où la perception que pourraient se faire les électeurs, c'est le parti du président de la République est complètement marginalisé, complètement dans les choux, et seront la probabilité qu'aux prochaines élections européennes, il soit effectivement en très mauvaise posture, relativement grande, mais apparemment pas. Il se stabilise tout simplement au niveau de ce qu'est son électorat du premier tour de la présidentielle.
Voilà, c'est-à-dire entre 20 et 25%. Conclusion, on se retrouve à peu près Le Pen contre Macron pour simplement.
Exactement.
Faire un raccourci.
Alors, si tu permets pour continuer un petit peu sur ce sujet-là, Jean-Claude, aujourd'hui, l'on dit que tout ça, c'est un peu le problème de notre système démocratique et d'un manque de représentation politique, c'est-à-dire que les électeurs ne se reconnaîtraient
le
pas
peuple
aujourd'hui
ne se sent pas dans l'expression. Écouté, entendu.
Le peuple ne se reconnaît pas dans l'expression que leur renvoient effectivement les partis politiques aujourd'hui de leurs problèmes, etc. Or, moi, je suis de ceux qui prétendent que ce n'est pas un problème fondamentalement de représentation politique. Le véritable problème, c'est que tout simplement, on a un endettement massif et un déficit massif, et que si on ne réussit pas à lever cette contrainte économique majeure, on ne pourra pas, par exemple, satisfaire aux revendications principales des Gilets jaunes aujourd'hui. Quelles sont-elles? Il faut augmenter le SMIC, il faut effectivement plus de moins de pression fiscale, plus de services publics, indexer les retraites, etc. etc.
Oui, c'est-à-dire, il faut des sous, hors des sous, il faut en rembourser, nous, régulièrement.
Exactement. Donc, conclusion, tant qu'on ne relèvera pas effectivement ce contexte-là, et encore faudrait-il qu'on nous dise comment, sur quelle durée,
et qu'on le veuille vraiment,
on n'en sortira pas.
Ouais. Pour enchaîner, alors, César Battisti, un Italien, qui ressort dans l'actualité en quelques mots, Michel.
Ah oui, parce qu'il a été, expulsé de Bolivie, où s'était réfugié après que l'avant-dernier président du Brésil, nommé Temer, et tout simplement accepté l'extradition de Battisti en Italie. Donc il est parti vite se réfugier en Bolivie, il a été rattrapé par la police, si je puis dire.
C'est que dans les années 70 ou 80, c'était un terroriste italien d'extrême gauche.
Battisti était un membre de l'ultra gauche en Italie. Il était membre des prolétaires armés pour le communisme. Que ça, il a été arrêté au motif qu'il avait participé à deux meurtres, il en avait réalisé lui-même deux autres, hein, donc quatre. Il réussit, fait, à échapper à la justice italienne, il se réfugie, si je puis dire, en France. François Mitterrand
lui
accorde...
Il a fait un pont d'or, pratiquement.
En France, Mitterrand arrive au pouvoir en 81 et lui, il accorde l'immunité, fait, comme à d'autres d'ailleurs italiens, à la condition qu'ils ne reprennent pas leur activité fait, terroriste. Bref, le temps passe en France aussi, donc, mais Chirac arrive au pouvoir et Battisti bon, sent bien qu'il ne pourra pas rester trop longtemps en France, donc il s'en va au Brésil, etc. etc. Donc depuis, entre-temps quand même, en 2004, hein, le maire de Frontignan,
voilà, c'est pour ça que on arrive à Frontignan,
parce que le maire de Frontignan, en fait, Pierre Bouledoire, lui, qui chaque année, en fait, je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs, organisait un festival international du roman noir. Cesare Battisti s'en fait connaître en France par la production, effectivement, de romans noirs.
Très noirs,
qui ont eu quelques succès, fait, d'éditeurs, mais aussi, fait, auprès d'un certain lectorat. De sorte que, entre parenthèses, toutes les polardeux, pour utiliser un terme qui n'est pas forcément très correct, soutenaient ce Battisti, mais pas que.
Et plein d'intellectuels
tous les intellectuels français pratiquement, de Bernard-Henri Lévy jusqu'à Fred Vargas, là, Papès,
Bédos,
Madame Daniel Mitterrand, enfin bref, Pierre Vidal-Naquet, enfin bref, la liste est extrêmement nombreuse. Et Pierre, donc, Bouledoire, le maire de Frontignan, qui faisait ce festival-là, il a eu la bonne... À Frontignan, où il y a beaucoup d'Italiens, a eu la bonne idée, lui... Hein, de décerner le titre de citoyen d'honneur en fait à ce monsieur Battisti
de la ville de Frontignan.
Or aujourd'hui,
d'où ton expression l'honneur perdu de Frontignan.
Exactement, parce que depuis maintenant quelques jours, ce Battisti a été effectivement expédié en fait en Italie, il est en prison. Et là,
il va
énorme
purger,
surprise
là,
quand même. Énorme surprise, Jean-Claude, parce que jusqu'à aujourd'hui, hein, tous ces intellectuels, fait, et donc le maire de Frontignan, lui aussi, considéraient que M. Battisti était innocent, qu'il n'avait pas commis ces deux meurtres et parti de deux autres.
Or, le type a avoué clairement.
Or, clairement, il a dit, il arrive en Italie, il est pris par la justice, il est en prison, et qu'est-ce qu'il dit, fait, dans son procès d'audition? Effectivement, oui, c'est moi qui ai commis non seulement les deux meurtres qui m'ont été attribués, mais aussi les deux autres auxquels on prétendait que je participais.
Voilà.
Et le plus fort, en fait, Jean-Claude, c'est que Fred Vargas, cette papesse du roman noir français, hein, interviewé il y a deux jours, en fait, a dit, ben oui, mais bon, il dit ça, mais je sais pas, bon, pourquoi il a dit ça, mais je considère qu'il est toujours innocent. Ça veut dire qu'on a même en France des intellectuels qui aujourd'hui nous expliquent, hein, que Battisti, qui avoue effectivement avoir réalisé quatre meurtres, eh ben, à la limite, où il raconte je ne sais quoi, mais elle avait raison quand elle disait qu'il était innocent.
Avant de marquer la pause, on conclut en disant que, en italien ou en français, il leur dit carrément, je vous ai bien couillonné.
Exactement.